Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec Sébastien Farcy, bonsoir.
Bonsoir. À la une ce soir, une commission, oui, mais pas de réparation pour Haïti. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron, très attendue aujourd'hui, date du bicentenaire de la dette historique imposée par la France à ce pays des Caraïbes. Une réponse en demi-teinte pour ne pas que d'autres anciennes colonies réclament aussi des réparations, nous l'entendrons. La guerre commerciale lancée par Donald Trump, un désastre pour l'industrie de la chimie européenne. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par les représentants du secteur. Les produits chinois pourraient se déverser en Europe. Plus de 200 000 emplois seraient menacés sur le continent. Le président de la Fédération France Chimie nous explique pourquoi dans ce journal. Et qui sera le successeur de Justin Trudeau au Canada? À 11 jours des élections législatives, un débat important s'est tenu hier soir entre les principaux candidats. Le seul débat en français, crucial pour attirer les électeurs du Québec. Notre correspondante à Montréal l'a suivi pour nous. La réunion vient de se terminer à Paris, une rencontre importante. C'était les premières discussions sur l'Ukraine entre Américains, Européens et Ukrainiens. Ceci depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les Européens font tout pour se replacer au centre de la négociation après les débuts difficiles imposés par le président américain. Ces discussions étaient excellentes et constructives. Elles permettent d'avancer vers la fin du conflit, affirme la présidence française. Écoutez le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ce soir, à la sortie de ces échanges, au micro de Pierre-Olivier.
Aujourd'hui, à Paris, les États-Unis, l'Ukraine et les Européens se sont retrouvés autour d'une même table pour aborder ensemble la suite des efforts que nous voulons toutes et tous consentir pour arriver au plus vite à un cessez-le-feu en Ukraine, permettant d'engager des discussions vers une paix juste et durable. Et ces discussions très ouvertes, très franches, auront permis de faire avancer la réflexion des Européens, celle des Ukrainiens et celle des Américains, qui se sont donné rendez-vous la semaine prochaine à Londres pour poursuivre les échanges sur cette base-là, afin que nous puissions espérer, dans les tout prochains temps, aboutir à ce cessez-le-feu plein et entier, sans conditions, auxquelles les Ukrainiens ont d'ores et déjà consenti et auxquelles nous souhaitons que la Russie puisse consentir à son tour.
Haïti ne recevra donc pas de réparation, c'est ce qu'a affirmé le président français aujourd'hui, jour du bicentenaire de la dette historique d'Haïti. Plusieurs centaines de milliers d'euros actuels, c'est ce que les Haïtiens ont dû payer en échange de la reconnaissance de leur indépendance par la France. Un fardeau que le pays a traîné et qui a freiné le développement de cette nation aujourd'hui la plus pauvre d'Amérique. Emmanuel Macron ne nie pas toutefois la responsabilité de la France et lance un travail de recherche sur ce qu'il appelle le prix de la liberté et la force injuste de l'histoire. Cela prendra la forme d'une commission d'historiens. Marine de la Moissonnière.
La France a imposé une très lourde indemnité financière à son ex-colonie, reconnaît Emmanuel Macron dans ce communiqué, mais pas question pour autant de verser une réparation financière, comme le réclament les autorités de Port-au-Prince. L'heure est au travail de mémoire, juge le président qui a décidé de former une commission d'historiens franco-haïtiens. Leur mission, étudier l'impact sur Haïti du paiement de cette dette et formuler au gouvernement des deux pays des recommandations. En 1825, en échange de la reconnaissance de son indépendance, la jeune République haïtienne avait dû accepter de verser 150 millions de francs or pour indemniser les anciens propriétaires de terres et d'esclaves, une somme ramenée un peu plus tard à 90 millions de francs or que les Haïtiens ont dû emprunter à des banques françaises. Les derniers intérêts n'ont été remboursés qu'en 1952. Pour beaucoup d'Haïtiens et de spécialistes de la question, sans cette dette colossale, le pays ne serait pas dans une telle situation aujourd'hui, mais pour la France, l'enjeu dépasse le cas d'Haïti. Faire un geste financier envers ce pays, ce serait envoyer un signal à ces autres anciennes colonies qui réclament elles aussi des réparations.
Au Canada, la campagne des élections législatives bat son plein. Les électeurs sont appelés aux urnes le 28 avril prochain. L'enjeu principal, désigner le Premier ministre qui remplacera Justin Trudeau et donc celui qui affrontera Donald Trump. Le président américain, lui, toujours aussi décidé à annexer son voisin canadien. Ce mercredi, les trois chefs des principaux partis se sont donc opposés. C'était le seul débat télévisé en français dans cette campagne éclair. Crise du logement, immigration, guerre commerciale, les sujets brûlants se sont succédés, mais une chose manquait, aucun n'a pu chiffrer son programme. Notre correspondante à Montréal, Nafi Alibert, a suivi le débat pour nous.
À 10 jours du scrutin, Mark Carney, le nouveau chef du Parti libéral et favori des sondages, s'est retrouvé dans la ligne de mire lors du débat des chefs hier soir. Son principal adversaire, le conservateur Pierre Poilievre, l'a notamment attaqué frontalement sur l'héritage économique de Justin Trudeau.
Vous avez même conseillé à Justin Trudeau d'imprimer l'argent qui a causé notre crise inflationniste.
Stoïque, Mark Carney a tenté de se démarquer.
Je viens d'arriver.
Il promet de rétablir les finances publiques et dans ce débat marqué par la guerre commerciale, les promesses d'une économie meilleure ont fusé, mais sans chiffres concrets.
Vous arrivez ce soir les mains vides pour ce qui est du cadre financier. C'est quand même inédit, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça.
Mark Carney a répondu à l'animateur du débat qu'il donnerait plus de détails ce week-end. En attendant, le vote par anticipation, lui, commence demain et certains électeurs pourraient donc trancher sans connaître le coût réel des promesses.
Est-ce que c'est pas, et je mesure mes mots, totalement irresponsable devant l'électorat canadien.
Pierre Poilievre est resté vague sur cette question. Peut-être en dira-t-il plus ce soir, lors du second débat, en anglais cette fois. Nafi Alibert, Montréal, RFI.
C'était le 17 avril 1975. Il y a 50 ans exactement, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh. Le début d'un des pires génocides du XXe siècle. Un quart de la population cambodgienne a été tuée, des milliers d'autres torturés. Toute la journée, RFI vous fait écouter les survivants ainsi que la jeune génération pour comprendre comment les Cambodgiens vivent et se souviennent de ce génocide. Et dans un instant, nous reviendrons sur cet événement majeur dans l'émission Décryptage. Nous nous demanderons comment juger un génocide et comment se guérir de ces traumatismes. Restez donc avec nous, Décryptage, c'est juste après ce journal. La guerre commerciale lancée par Donald Trump pourrait bientôt faire des dégâts en Europe. Les barrières douanières américaines imposées à la Chine freinent les échanges entre les deux plus grandes économies mondiales. Alors que font les Chinois de leur production? Le risque est qu'ils inondent le marché européen. Un secteur tire déjà la sonnette d'alarme, c'est la chimie. Cette concurrence sévère pourrait détruire en effet jusqu'à 200 000 emplois en Europe. C'est l'estimation de la Fédération France Chimie. Frédéric Gaucher, le président de cette fédération, s'inquiète de ce dérèglement économique. Il est au micro de Nicolas Feldman.
Ces barrières douanières et ces tensions entre les deux plus gros clients du monde de la chimie vont entraîner un effet récessif. Cet effet récessif va accentuer le fait qu'il y a aujourd'hui une surcapacité et donc on estime qu'il va y avoir un surplus d'une quinzaine de milliards de produits chimiques qui vont pas trouver preneur côté Chine et à une dizaine de milliards du côté des USA. Et donc ces produits vont chercher désespérément de nouveaux clients. Quand il y a une surcapacité dans l'industrie, cela se traduit in fine par des fermetures d'usines. Et bien entendu, les usines qui ferment en premier sont celles qui sont les moins compétitives et c'est là où on est très inquiet.
Et donc, pour rappeler que la conférence des Européens, des Américains et des Ukrainiens vient de se terminer à Paris. C'était donc la première rencontre sur le sujet, sur la guerre en Ukraine, depuis l'élection de Donald Trump. Et justement, nous avons entendu Jean-Noël Barrot qui vient d'exprimer sa confiance dans la fin de ce conflit en Ukraine. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez bien sûr retrouver ce journal, comme toutes nos émissions, sur notre site rfi.fr, ainsi que sur l'application Pure Radio. Tout de suite, l'émission Décryptage.